de Sécheresse, un épisode Cévenol, l'eau dans le sud Aveyron. Une série d'émissions écrite et réalisée par Lola Cross, journaliste indépendante, dans le cadre d'une résidence de journaliste portée par Radio Larzac grâce au soutien de la DRAC Occitanie. Deuxième goutte, l'eau que l'on maîtrise.
On se retrouve pour le deuxième épisode de cette série dédiée à l'eau, ses usages et ses enjeux en Sud Aveyron. Dans l'épisode précédent, nous avons plongé dans les entrailles du grand cycle de l'eau, que l'on pourrait définir comme le cycle naturel de l'eau, ce cycle infini qui nous dépasse. Dans ce deuxième épisode, je vous propose de mettre le nez dans le petit cycle de l'eau, celui qui, à contrario, a été façonné par et pour les besoins humains. Comment dompter cette eau qui n'appartient à personne sans la gaspiller ni l'altérer pour la rendre aux milieux aquatiques? C'est ce que nous allons tenter de démêler dans cet épisode. Et c'est au lycée Jean Vigo, avec une classe de terminale, que je suis partie défricher ce sujet.
Moi, je me suis demandé quelle était la source principale de l'eau potable dans la ville et comment est-ce que l'eau potable arrivait jusqu'à nos robinets.
Comment l'eau est-elle traitée et comment on vérifie qu'elle est bien potable? Et après, il y avait une autre question, c'est après la filtration dans les stations d'épuration, où va l'eau qui est récoltée?
Est-ce que le fait qu'il y ait du calcaire dans l'eau en très grande quantité, ça altère sa qualité?
On se demandait, par exemple, avec toute l'agriculture environnante de Millau qui pollue, par exemple, les nappes phréatiques, est-ce que l'eau qu'on consomme elle est vraiment potable et bonne pour nous? Voilà.
Est-ce que Millau est une ville très consommatrice en eau potable?
Est-ce que les récupérateurs d'eau à Millau, ça pourrait être une solution efficace, justement, pour essayer d'être plus économe sur la consommation?
L'eau n'appartient à personne, ou plutôt elle appartient à tout le monde. À l'échelle de la planète, l'eau a un statut de bien commun. Alors si nous avons tous le droit de l'utiliser, il nous revient aussi le devoir de la protéger. Tout un millefeuille administratif garantit le respect de la ressource. Et si les régions et départements doivent s'assurer du respect des nombreuses législations en vigueur, c'est aux communes que revient la gestion de l'eau potable. Cela comprend à la fois l'assainissement de l'eau, la distribution de l'eau potable dans la commune, mais aussi le traitement des eaux usées domestiques et industrielles.
Alors, sur ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, qui est l'approvisionnement en eau potable des habitants et également la collecte des eaux usées et de leur traitement. Alors, c'est une compétence actuellement qui est communale, donc chaque commune veille à ce que chaque habitant puisse être approvisionné en eau, une eau qui soit potable, de qualité. Donc ça, c'est le rôle de la commune d'amener donc l'eau dans chaque maison et également de récupérer toutes les eaux usées.
Séverine Peyretout est élue à la ville de Millau ainsi qu'à la communauté de communes Millau-Grand-Cosse en charge de l'écologie.
Alors, l'eau qui est consommée par les habitants de Millau, elle vient de la source de l'Esperelle. Elle peut provenir également des points de captage d'eau qu'on a au niveau de la Groffe Zinc. Elle est ensuite collectée sur un réseau avec ensuite un stockage de cette eau dans différents réservoirs. On a 14 réservoirs sur la commune. Et ensuite, de ces réservoirs, elle est acheminée via un réseau d'eau potable. On a plus de 200 km de réseau d'eau potable, et ce qui permet d'amener l'eau jusqu'à chaque branchement de maison. Alors l'eau qui repart de chez nous, elle est collectée dans ce qu'on appelle le réseau d'eau usée. Donc essentiellement, on a donc tout comme pour l'eau potable, un réseau qui fait un peu plus de 200 km aussi, qui collecte donc les eaux usées. Alors après, en fonction de notre habitation, l'eau peut être parfois mélangée à l'eau de pluie. Donc ça, c'est pas forcément une bonne chose. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir ce qu'on appelle un collectage de l'eau en séparatif, où on sépare bien les eaux usées et les eaux pluviales. L'eau est collectée et ensuite transportée jusqu'à la station d'épuration qui se trouve quasiment au pied du viaduc sur la commune. Alors, dans la station d'épuration, il y a d'abord une filtration des plus grosses particules et ensuite un traitement de l'eau de façon à pouvoir la débarrasser de ses impuretés, des différents polluants qu'elle peut contenir, de façon à ce qu'elle puisse être ensuite rejetée dans le milieu naturel, donc dans le Tarn, en ayant le moins d'impact possible pour l'environnement. Alors, quand les deux sont mélangés, ça pose un problème. Alors, pourquoi ? Parce qu'avant, on avait souvent qu'un seul mode de collecte des eaux. Et alors, quand c'est mélangé, ben, ça pose souci, notamment lorsqu'il y a des orages ou de fortes pluies, ce qui peut amener une trop grosse quantité d'eau vers la station d'épuration. Et donc, ça peut entraîner un dysfonctionnement de la station d'épuration. Ça peut également amener à des débordements des déversoirs d'orage. Et donc, un mélange eau de pluie, eau usée et des déversements d'eau usée dans les cours d'eau, dans l'environnement. Donc on travaille au niveau de la commune à moderniser ce réseau d'eau usée et c'est notamment ce qu'on a fait sur les travaux Avenue de la République où on a modifié tout le réseau de collecte et on a transformé donc de l'unitaire en réseau séparatif. Alors, actuellement sur la commune de Millau, la compétence donc de l'eau potable, elle se fait en délégation de service public. Donc, on a délégué à l'entreprise Veolia la gestion de cette eau potable. Et donc, ce délégataire va réaliser quasiment journalièrement des contrôles sur l'eau qui est amenée et également l'ARS va effectuer des contrôles. Et donc, on a donc les contrôles de l'ARS ou ceux effectués par Veolia montrent que 100% des analyses microbiologiques et physico-chimiques sont jugées conformes. Donc on a, après c'est normal sur Millau et avec l'Écosse qui nous entoure, une eau qui est calcaire, mais de bonne qualité pour la santé des habitants.
Comme Millau, les communes ont le choix de déléguer la gestion de l'eau et de l'assainissement à leur intercommunalité, à des opérateurs privés ou à des délégataires de services publics. Le marché de l'eau en France est un marché concurrentiel, mais dans chaque commune, un unique fournisseur d'eau est présent. Il détient le monopole et tous les habitants de la commune doivent nécessairement souscrire à un abonnement d'eau auprès de lui. Pour vous donner quelques chiffres, en France, chaque année, 34 milliards de mètres cubes d'eau seraient prélevés pour satisfaire les activités humaines. Parmi ces 34 milliards de mètres cubes, 81% sont prélevés dans des eaux de surface et 19% dans les eaux souterraines. Après le traitement des eaux, 28 milliards de mètres cubes sur les 34 prélevés sont restitués au milieu naturel. D'après les données du ministère de la Transition écologique, en France toujours, 48% de l'eau prélevée est utilisée à des fins agricoles. 24% pour des usages domestiques, 22% pour la production d'énergie et 6% à des fins industrielles. D'après un rapport du Parc naturel régional des Grands Causses, les services d'eau potable et d'assainissement du Sud-Aveyron sont exposés à des difficultés structurelles, rendant l'équilibre budgétaire difficile, et ce, du fait d'une faible densité de la population, d'une dispersion de l'habitat et aussi d'une politique de prix bas de l'eau. Je rencontre Gilbert Fauché, maire de Poy, élu communautaire et président du CIVOM Tarn et Lumanzonesque, qui gère les compétences eau et assainissement de 6 communes au nord de Millau.
Il y a de plus en plus de contraintes, notamment avec les directives européennes qui nous imposent certaines choses, périmètre de protection, schéma directeur, des traitements, parce que l'eau qu'on prélève dans le milieu, c'est pas la même qu'arrive au robinet. Elle est analysée, elle est traitée, elle est suivie. Donc ça devient compliqué. Donc une petite commune, pour faire face, c'est quand même du travail. Et comme on sait, quand il y a un incident sur un réseau d'eau potable, c'est le vendredi soir, le samedi ou le dimanche, en principe. Donc c'est quand même un confort. Et c'est surtout un confort de gestion, mais aussi au niveau des usagers. Ça permet d'avoir une continuité du service et de, en principe, pas être interrompu, sauf cas exceptionnel. C'est pas la question qui fâche, mais ça c'est la question compliquée. Mais bien sûr qu'on est vachement contrôlé là-dessus, parce que ce qu'on prélève, on déclare tout ce qu'on prélève. D'accord ? Au service de l'État, on fait des RPQS, donc rapport sur le service de la qualité de l'eau. Donc on fait des rendements, donc c'est quand même suivi. Il faut qu'on assure un certain pourcentage de rendement. On a mis en place des périmètres de protection, on a mis en place des schémas directeurs, et on sait que dans des où on a des prélèvements sur la ressource naturelle, on a des obligations de rejet dans l'environnement pour pas que les ruisseaux en aval soient à sec, parce qu'il n'y a pas un rejet à cause que le fait que nous on prélève. Donc là-dessus, ça devient compliqué, parce que quand on prélève, en sachant que les quantités baissent naturellement, si on est obligé de renvoyer dans la nature, grosso modo, allez, 10% de ce qu'on prélève pour pas assécher, il faut quand même qu'on ait besoin le volume nécessaire pour donner, remplir nos réservoirs, pour que l'eau elle arrive au compteur, au robinet. On a des pompages dans le Tarn, donc on pompe dans la nappe, et à partir de ce moment-là, le pompage prend relais sur la ressource du milieu et pour respecter ces rejets qu'on nous impose. Donc c'est contrôlé, on ne fait pas ce qu'on veut. Mmh. Voilà. C'est en fonction de la capacité que la ressource naturelle peut fournir. On a une autorisation de prélèvement et une obligation de rejet dans l'environnement avant traitement. Après, érosion, colmatage des rivières, parce qu'en fin de compte, toutes les fines, ça arrive à descendre. Sur les réseaux d'eau potable, ça, quand il pleut beaucoup, ça amène de la turbidité. Avec voilà, les fines de la terre qui polluent l'eau. Donc en plus, des fois, des problèmes des entrants dans le sol. Si en plus on a cette turbidité, on n'est pas très bon, quoi. Donc d'où la création de ces fameux périmètres de protection pour sauvegarder et puis avoir des contraintes sur l'exploitation de l'espace par rapport à nos ressources en eau. Périmètre immédiat, rapproché et éloigné.
Laurent Danneville, hydrogéologue et directeur adjoint du parc naturel régional des Grands Causses.
Alors c'est vrai que les collectivités sur le territoire ont beaucoup de captages, notamment de sources karstiques, et c'est vrai que pour protéger cette ressource, ils se lancent dans les procédures de périmètre de protection. Alors cette procédure, elle est initiée par l'Agence régionale de santé. Et c'est vrai que sur notre territoire, le fait qu'on ait fait des études hydrogéologiques a permis d'avoir cette meilleure connaissance. Donc en général, il y a un hydrogéologue agréé qui est nommé et qui va définir des périmètres de protection. En général, un périmètre immédiat autour du captage, clôturé. Un périmètre rapproché un peu plus vaste, où il peut y avoir des prescriptions, des servitudes sur notamment la mise en place, éviter les engrais par exemple ou les produits phytosanitaires en milieu rural. Et puis après, un périmètre de protection éloigné qui va intégrer tout le bassin d'alimentation ou l'impluvium. Donc cette procédure est des fois un peu longue. Et donc quelques collectivités ont terminé leur procédure et ont mis en place donc souvent une clôture autour du captage. Des fois d'autres clôtures autour d'avennes qui étaient vulnérables, notamment qui sont sur le plateau, sur les côtes. Il peut y avoir des périmètres immédiats satellites. On parle des périmètres immédiats satellites pour éviter que ce soit des zones de décharge.
Alors après, si, enfin, faut pas non plus. Il y a quelques captages dans l'Aveyron où il y a eu des dépassements en nitrate au-delà de 50 mg par litre, mm-hmm. parce que le bassin d'alimentation de la source était peu connu, parce qu'il y avait des tas de fumée mal placés, ou peut-être des plans d'épandage importants, et donc d'apport d'engrais voilà, assez important mélangé avec des. Voilà, ou même des eaux blanches ou des. Enfin voilà, il y a pas mal de sources de nitrate. Donc si on ne gère pas ça sur un bassin d'alimentation, des fois l'exploitant ne savait même pas qu'il était sur le bassin d'alimentation d'une source, mmh. ben, on est arrivé des fois à des concentrations très fortes. Hein. Mmh. Mais c'est rare. On l'a plutôt dans d'autres départements, ça, beaucoup de captages dans le Tarn, par exemple Tarn-et-Garonne, qui ont été arrêtés parce qu'on était à 100 mg par litre. Okay. Ouais. Et puis des phytos, je n'en parle pas. Nous, ce n'est pas le cas ici, sur nos territoires. On est préservés quand même. Il faut vraiment l'intégrer. Alors, il y avait une méconnaissance souvent, parce que c'est ça le souci, c'est que cette procédure périmètre de protection, elle existe depuis 1964. Eh ben, dès qu'il pleut, ça va sur une source, en effet. Elles sont pratiquement toutes captées, pas toutes, hein. Mais en effet, vous allez sur un... Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur le LARZAC, notamment avec l'agence de l'eau. On a lancé ils appelaient ça des politiques territoriales. On a travaillé pour, entre guillemets, mettre aux normes tout ce qui existait. Donc après cette connaissance, on a essayé de mettre aux normes tous ceux qui étaient dispositifs d'assainissement autonome, des particuliers, qui étaient sur des périmètres de protection, de traiter les eaux blanches, de traiter parfois les tas de fumier, enfin en tout cas de mieux les placer ou les mettre sur des aires étanches pour qu'il n'y ait pas de lixivia qui partent dans la nature. Et souvent ça peut poser problème sur la qualité de l'eau. Sur les jus d'ensilage aussi, ça peut arriver, quelques-uns font des jus d'ensilage pour pas qu'il y ait de départ de jus d'ensilage. Et puis les quelques industriels qu'ils pouvaient avoir, l'agroalimentaire ou quelques fromageries, qui puissent traiter leurs effluents. Sur l'autoroute aussi, on a travaillé avec l'autoroute. L'autoroute a arrêté de désherber depuis des années. Hein. Il y avait des produits de désherbage sur l'autoroute. Le camp militaire, à un moment donné, il désherbait aussi, donc ils ont arrêté aussi pour le coupe-feu. On a travaillé avec eux, hein. ils ont été sensibilisés par rapport à ça. Donc maintenant, c'est fini. Okay. Ouais, et puis il y a STL là-haut, travail en général, ils utilisent peu de phytosanitaires. Mmh. Voilà, donc voilà, mais on a travaillé avec toutes les collectivités. Et les usagers pour essayer de mettre. Alors c'est pas fini, hein, je dis pas, mais je pense qu'il y a plus de. Je pense pas qu'il y ait de points noirs, mais il faut qu'on aille dans. Voilà, il faut que. Normalement, tout le monde doit traiter ses effluents. C'est la réglementation. Donc nous, on avait mis un coup de pouce avec les partenaires pour avancer plus vite, notamment dans les zones de périmètre de protection pour l'intérêt général.
Depuis 2003, le parc naturel régional des Grands Causses a pris en charge la compétence du service public de l'assainissement non collectif, le SPANC. Il regroupe tous les systèmes d'assainissement effectuant la collecte, le pré-traitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des habitations qui ne sont pas raccordées au réseau public d'assainissement.
Alors on a parlé des effluents agricoles, mais il y a bien sûr les effluents domestiques. Alors c'est vrai que en même temps que la connaissance augmentait, les élus ont souhaité qu'on mette en place le service public d'assainissement non collectif sur le territoire du parc. Donc il est en place depuis 2003. Donc ça fait maintenant 24 ans. Donc les plusieurs techniciens sont en charge, entre guillemets, de contrôle. On est là surtout pour sensibiliser les habitants à leur mise en place de leur dispositif. Donc on vient vérifier que tout fonctionne bien, qu'il y a un dispositif en place. On a 9000 dispositifs à vérifier comme sur le territoire. Donc ils y vont à peu près tous les 8 ans.
Donc ça c'est 9000
foyers ? Oui, 9000 foyers, c'est ça. 9000 foyers qui sont... justement en assainissement autonome. Les autres sont branchés à des stations d'épuration. Donc c'est quand même conséquent, milieu rural. Donc c'est un travail important des techniciens pour les vérifier ce bon fonctionnement, éviter les points noirs, les rejets directs. On a mené beaucoup de campagnes de réhabilitation de dispositifs d'assainissement justement pour des foyers qui étaient dans des zones sensibles, donc des zones qui étaient des habitations qui étaient en périmètre de protection de captage ou en zone de baignade. On a réhabilité 300 dispositifs en quelques années avec des aides de l'agence de l'eau, des fois de l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, pour financer ces dispositifs. Donc ça a été fait sur une grande partie du territoire, mais il y a encore des dispositifs qui ne sont pas aux normes sur le territoire, donc on travaille là-dessus. Les techniciens travaillent aussi sur les ventes immobilières, parce que lorsqu'il y a une vente immobilière, il y a l'obligation d'avoir un diagnostic sur l'assainissement. Et le nouvel acquéreur doit, au bout d'un an, faire la réhabilitation de son assainissement. Donc c'est un moyen aussi de se mettre aux normes et de participer à l'amélioration environnementale du territoire. Et puis les techniciens aussi ont la charge aussi d'instruire les permis de construire et les réhabilitations volontaires sur le territoire. Donc c'est une centaine de dossiers aussi chaque année. Donc c'est aussi important. Donc voilà, on est à peu près à 30% de conformité, on va dire, de l'assainissement. On augmente doucement et on espère pouvoir atteindre des conformités un peu plus importantes, notamment sur les zones sensibles. Lorsqu'il y a quand même des points noirs, des points importants qui sont à régler, alors on essaie de trouver des solutions, bien sûr, avec les particuliers, l'élu concerné de la commune, puisque c'est le maire qui a gardé le pouvoir de police. On essaie de voir avec les partenaires s'il y a des possibilités de financement pour essayer de réhabiliter l'assainissement. C'est vrai qu'au niveau national, ce qui manque, c'est un petit peu un arsenal législatif sur l'aspect répression, entre guillemets. C'est difficile pour nous, on ne peut pas mettre en place de redevances, par exemple, majorées sur ce type de dispositif. Alors, la seule qui est mise en place, pour l'instant, c'est celle qui concerne le refus de visite. Lorsqu'il y a un refus de visite, on peut avoir une redevance majorée. Et on a mis en place, les élus ont mis en place une redevance à 400% pour ceux qui n'ont pas réhabilité leur dispositif après la vente, puisqu'ils avaient un an pour réhabiliter. Ils en avaient eu connaissance, bien sûr, puisqu'il y avait le diagnostic du SPANC, le notaire en avait informé, souvent l'agent immobilier, ils avaient mis de côté pour financer cet aspect. Et quand ce n'est pas fait, bah, à ce moment-là, les élus ont dit non, à ce moment-là, on va mettre 400%. Donc, l'idée, c'est pas de mettre 400%, l'idée, c'est que les gens puissent en effet réhabiliter leur assainissement comme convenu. Donc, on essaie de travailler, de les sensibiliser par rapport à ça.
Gilbert Fauché.
C'est bien ça, les enjeux futurs à faire des transferts de compétences, à avoir des schémas directeurs, c'est essayer de mailler le réseau d'eau potable, peut-être au niveau déjà intercommunautaire, mais peut-être interdépartemental aussi, dans quelques temps, parce qu'on se rend compte qu'il y a des grosses masses de population. Comme vous disiez, dans l'Hérault, où ça consomme de l'eau, et c'est pas eux qui ont le plus d'eau. Donc, est-ce qu'un jour, il n'y aura pas quelque chose qui va partir d'un point d'eau tel que de l'Aveyron pour alimenter la métropole héraultaise? Au jour d'aujourd'hui, il y a quand même des choses qui se produisent avec tous les bassins, les bassins ou les retenues qu'on a sur le Lévézou, où il y a des lâchers qui permettent de maintenir des niveaux d'étiage importants dans le Tarn et Garonne, et voire peut-être plus loin. C'est ce qui porte aussi des fois des quiproquos, et ça c'est clair qu'il faut le dire, c'est que on lâche de l'eau des fois pour faire de l'arrosage de culture, alors que c'est pas soutien à la population. Et moi, clairement, quand je vois... Après, je veux pas critiquer, attention, l'agriculteur, parce que des moments, il fait des choses qu'on lui demande de faire aussi. Mais quand on arrose du maïs à 13h de l'après-midi, et puis qu'on te dit qu'il faut économiser l'eau, on sait très bien que c'est peut-être pas le bon moment pour arroser du maïs à 13h de l'après-midi, alors que le soleil tape plein pot, et que la nuit, ça aurait été mieux. Mais après, il existe aussi des droits d'eau ou des tours d'eau. Donc, il y en a qui ont le droit d'utiliser de l'eau de 12h à 14h, l'autre de 14h à 16h. Voilà, pour éviter de mettre à plat les nappes phréatiques, en l'occurrence. Le schéma directeur, eh bien, c'est de savoir ce qu'on a sur nos communes, ce qu'on a comme réseau, ce qu'on a comme qualité de réseau, la qualité du matériau, des réseaux, savoir connaître son réseau, quoi. Un schéma directeur, c'est principalement ça. Et aussi, en connaissant notre réseau, comme on disait tout à l'heure, on a cette fameuse possibilité de dire nous on a ça là, les autres ils ont ça là-bas, et est-ce qu'il ne serait pas judicieux un jour d'interconnecter, parce que nous on est capable de fournir 1000 m3 jour d'eau, les autres à des moments ils peuvent avoir des chutes de production. Donc d'interconnecter. Déjà, l'idée, c'est de ça, c'est de savoir donner de l'eau à tout le monde. Parce que sur la communauté de communes Mio Grand Causse, cet été, il y a une commune qui était en tension, qu'elle a fallu qu'elle fasse du citernage. C'est quand même dommage de faire du citernage. Bon, quoique le citernage, actuellement, vu le prix que coûtent les réseaux, quand on sait qu'on peut avoir des problèmes de volume d'eau pendant une petite période l'été, investir des sommes énormes dans la création de réseaux, est-ce qu'il vaut mieux pas des fois citerner pendant 15 jours ou 3 semaines? Ça, c'est des débats qu'on a avec l'agence de l'eau qui prône un peu ça. Et l'agence de l'eau réfléchit aussi beaucoup... Agence de l'eau à Tour-Garonne, réfléchissent beaucoup sur les toilettes sèches plutôt que systématiquement de faire des stations d'épuration et ainsi de suite.
À Millau, un habitant consomme 135 litres d'eau en moyenne par jour, contre 150 au niveau national.
Sur l'année 2024, on a une baisse de la consommation qui est à peu près de 6%.
Séverine Peyretou.
Je pense qu'il y a une prise de conscience des habitants et de l'enjeu à préserver la ressource en eau. Et en effet, on voit de plus en plus d'habitations s'équiper de récupérateurs d'eau, de cuves d'eau même enterrées. Sur des nouvelles constructions, on prend en compte souvent ces aspects-là. Pour autant, on n'est pas encore à utiliser cette eau à usage domestique. La plupart des personnes qui utilisent ces récupérateurs d'eau, c'est plus pour pallier à un arrosage de jardin, de potager, parce que on a conscience qu'en effet, arroser son jardin avec de l'eau potable, ben, c'est un petit peu comme la chasse d'eau des toilettes, ça n'a pas vraiment de sens.
Gilbert Fauché.
Et on se rend compte, là, en tant que président Sivom Tarnay-Humanzonesque, qu'on facture moins d'eau. On a un peu plus d'habitants, mais on facture beaucoup moins d'eau. Donc, le gestionnaire que je suis, sur le coup, va dire que c'est compliqué pour nous, parce qu'on fonctionne de la même manière, et si on vend moins d'eau, eh bien, on a moins de ressources pour pouvoir fonctionner, en sachant qu'on n'a qu'un budget. Qui doit s'équilibrer et on fonctionne avec ce qu'on vend. Voilà. Donc, le système est un peu pervers à des moments. Il faut savoir que sur l'eau, maintenant, on nous impose un certain prix de vente. Le nouveau programme de l'Agence de l'eau, je vous en ai parlé tout à l'heure un peu en off, nous impose que l'eau propre et l'eau sale soient un minimum de tarification imposé. On se rend compte qu'en fin de compte, de ce qu'on nous demande, sensiblement, tout le monde est en dessous de ce qu'on nous demande en imposition, d'appliquer.
Tout le monde, c'est-à-dire toutes les communes ?
Beaucoup de communes, ouais. Donc ça veut dire que niveau Sivom, tout le monde nous dit Sivom, vous êtes cher, machin. Mais je répète que le Sivom, on facture et on fonctionne avec ce qu'on facture, on n'a pas de budget annexe. Donc même au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que sur l'eau propre, l'eau potable qu'on vend, on est, par rapport à ce qui est demandé par l'agence de l'eau, on est légèrement en dessous. En assainissement, on est au-dessus, parce que, en fin de compte, l'assainissement coûte plus cher que l'eau propre. Parce que l'assainissement, c'est des pompes de refoulement, c'est véhiculé dans des réseaux, c'est du traitement arrivé en station d'épuration. Donc ça coûte cher. Mais voilà, donc il faudra penser que l'eau, il va falloir, je pense, l'augmenter. Et qui plus est, s'il y a moins de consommation de volume facturé, si on veut fonctionner, eh bien, il va falloir avoir ce levier, peut-être, c'est vrai, pas très populaire, d'augmenter le prix de l'eau, quoi. Alors ça s'appelle un exercice très périlleux. Donc, effectivement, nous avions pensé à un moment de faire une tarification incitative. Mais déjà, facturer normal, c'est compliqué, je vous promets, avec les logiciels et ainsi de suite. Si on commence à faire plusieurs facturations avec des seuils, ça va occuper une personne à temps plein, quoi, presque. Donc, c'est compliqué. C'est sûr que ça serait la bonne solution, prime au bon élève, on est d'accord. Alors après, peut-être qu'il faudrait le réfléchir avec les services qui peuvent nous soutenir, tels que l'agence de l'eau, de trouver les bonnes réflexions. Et voilà, donc j'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus, mais la tarification, oui, c'est un problème. Parce que le prix de base de l'eau, on l'a pas augmenté depuis 15 ans. Voilà, donc on a augmenté la part fixe, parce que la part fixe, en fin de compte, on arrive à toucher les résidences secondaires, par fixe, c'est l'abonnement. Alors que si on augmente la part variable, c'est la part d'eau consommée, on pénalise plus les autochtones que les gens qui viennent en vacances. Donc voilà. On met beaucoup de choses en place aussi pour traiter donc l'eau usée, les stations d'épuration, les contraintes qu'il y a sur les stations d'épuration, sur les rejets. Parce qu'il faut savoir que les rejets, ils sont analysés en permanence. Hein. Station d'épuration, on analyse. Nous, au niveau du Sivom, on n'a pas des grosses stations, mais le rejet est analysé deux fois par an. Comme sur la steppe de Millau, là-bas, c'est journalier hein, que c'est analysé. Donc il y a quand même un gros suivi sur l'eau. Voilà. Voilà. Et quand on me dit l'eau c'est cher, je suis pas convaincu que l'eau soit si chère que ça, parce que avec tout ce que ça apporte et tout ce qu'on a besoin comme l'eau, pas convaincu que l'eau soit bien plus chère que d'avoir un magnifique téléphone portable pour être dans la virtualité, quoi. À des prix énormes.
Séverine paye tout. Alors, à l'échelle de la commune, il y a énormément de prévention qui est faite hein, pour réduire la consommation d'eau. Donc, une consommation qui est en baisse, on le voit. On essaie déjà d'augmenter la rentabilité de notre réseau d'eau potable. Donc ça, c'est faire la chasse à toutes les fuites d'eau qui pourraient être sur le réseau. Donc, on met en œuvre beaucoup de télédétection pour notamment de la détection aussi acoustique pour aller voir s'il y a des fuites sur notre réseau. On est actuellement à un bon rendement de réseau. On est aux alentours de 81%. Donc, ça reste un très bon rendement et qui est même difficile à améliorer puisque plus on est plus la marge de progression est faible. Toutefois, on a mis en place quelque chose qui est aussi un outil très efficace en termes d'économie d'eau, c'est la télérelève. Donc grâce à cette télérelève, chaque particulier peut suivre sa consommation d'eau et agir en conséquence. Et cette télérelève, elle nous permet d'être très rapide dans la détection des fuites, des fuites qui sont après compteur, donc chez les particuliers, et d'alerter les particuliers très rapidement.
Gilbert Fauché.
On ne sait pas ce qu'il faut vraiment en penser, parce que moi je pense que quand on a une cuve, on arrose son jardin. Si on arrose son jardin encore là, c'est toute une réflexion. Son jardin potager, je dis que c'est très bien. Arroser des géraniums, je dis que c'est moins bien, même si c'est joli. Il existe aujourd'hui donc de faire de la végétalisation avec des plantes plus résistantes à la chaleur. Sur la commune, nous, de Poy, on a supprimé les géraniums. Alors c'est vrai que ça fait moins de gaieté, il paraît, mais on a mis dans les bacs des plantes qui sont moins énergivores, non, on peut dire comme ça, qui ont beaucoup moins besoin d'eau. Alors c'est vrai qu'il y a une croissance lente parce que l'été, comme elle souffre, il fait tellement chaud. On a mis beaucoup de sauge. La sauge, quand elle sera bien, elle va se faire de l'ombre toute seule. Et je pense qu'il y aura un bon rendu, puis il y aura de la couleur. Alors les rétentions, à des moments, oui, les fermes sur le Causse, avant, elles vivaient avec ça, avec des citernes. Mais bon, c'était géré en petit milieu. Et puis aussi, elles n'avaient pas de gouttière à leur toit, ce qui permettait aussi de garder le sol toujours un peu humide, et puis que les maisons, elles ne travaillaient pas, parce qu'il n'y avait pas la rétractation de l'argile ou de la marne. Les grosses réserves d'eau, je ne suis pas convaincu que ça soit une bonne solution. Sur le Causse-Méjean, je sais qu'il a été donné des aides à des agriculteurs pour justement mettre des rétentions contrôlées juste pour l'été, pour pouvoir alimenter le cheptel. Donc c'est une très bonne chose, en sachant que sur le Causse-Méjean, ils ont manqué d'eau l'année dernière, l'année d'avant. Il y a eu du citernage qui a été fait. Ils ont des réseaux d'eau sur le Causse, là-haut, d'une performance fabuleuse, parce que comme ils savent qu'ils ont des soucis l'été de pluviométrie, ils entretiennent les réseaux au max, avec des rendements vraiment fabuleux, ce qui a fait le fait d'être aidé par l'agence de l'eau pour mettre ces citernes à but agricole. Voilà. Rétention, ben oui, c'est une solution.
L'épisode de sécheresse qu'a traversé le sud Aveyron en 2022 a durablement marqué les esprits. Pendant plusieurs jours, les responsables et élus ont craint que l'eau manque au robinet. De son côté, le parc naturel régional des Grands Causses a poursuivi un programme de restauration des mares et lavognes du Larzac, qui en compte 530.
L'objectif premier est de protéger la biodiversité et de permettre à des espèces, notamment d'amphibiens, de s'y reproduire. Mais les étés secs pourraient redistribuer les cartes. Jérôme Bussière, chargé de mission biodiversité et milieu humide au Parc naturel régional des Grands Causses.
Alors aujourd'hui, les lavandes sont plutôt peu utilisées, plus utilisées. Aujourd'hui, ben, y a l'eau courante hein, dans les hameaux, sur le territoire, sur les causses. Et donc, les troupeaux, la plupart du temps, sont abreuvés directement à la bergerie, l'eau courante. Donc ces points d'eau sont plutôt abandonnés. Comme c'est des points d'eau qui sont d'origine anthropique, humaine, qui ont été entretenus, ben aujourd'hui, du fait qu'il n'y a plus d'entretien, soit elles perdent en étanchéité, donc l'eau, elles retiennent plus l'eau, soit au contraire, naturellement, ce qui est le cas de tous les points d'eau, hein, y compris des grands lacs, ils finissent par se combler. Donc perte de disparition du point d'eau et donc des bénéfices pour la faune de ces milieux-là.
Il y avait une volonté.
Alors je pense qu'ils n'ont pas vocation forcément à être tout restauré, on n'a pas forcément les moyens, mais je pense que l'entretien et la restauration de ces points d'eau, je pense que ça reviendra avec l'actualité du changement climatique, avec les besoins en eau, les besoins d'abreuvement. Je pense que c'est des patrimoines qui vont revenir un petit peu sur le devant de la scène. Donc je pense que de même, les propriétaires vont essayer de restaurer le patrimoine qu'ils ont, mais éventuellement aussi d'en créer de nouveaux. Ça, c'est possible aussi. Et ça, c'est des pistes à explorer aussi. C'est de savoir comment on refait des points d'eau qui puissent être pérennes, qui vont effectivement recueillir l'eau, qui vont pouvoir la conserver, en tout cas suffisamment de temps, pour être utile. Dans un objectif biodiversité, nous, on ne va pas chercher absolument à conserver l'eau tout le temps. Il faut qu'il y ait de l'eau au moment de la période de reproduction. Donc les mares temporaires, elles ont aussi un rôle à jouer dans les écosystèmes. On ne va pas chercher à avoir de l'eau forcément en permanence. Mais par rapport à cet enjeu de création, voilà, il y a des choses, il y a des techniques à réinventer ou à inventer pour essayer de recréer des points d'eau.
Le manque d'eau et les souvenirs de tensions localement ouvrent de nouvelles réflexions et une réappropriation des usages ancestraux.
Après, il y a des choses à faire. Quand on parlait tout à l'heure des toilettes sèches,
Gilbert Fauché.
Je balance un pavé dans la mare, peut-être, mais on a une aire de repos sur l'autoroute, sur la 75, sur la commune, alors je sais pas, c'est limitrophe entre Castelnau-Péguérol, Aguesac et Verrières, qui nous met à sec les réseaux l'été, quand il y a le flux de touristes, parce que les gens s'arrêtent aux sanitaires, et puis ils vont aux toilettes, et mais on ne tient pas les volumes, parce qu'en plus, là-haut, on est toujours en tension sur ce site. Ce site, il est alimenté par des surpresseurs, des pompes qui surpressent, parce qu'il est plus haut que les niveaux des réservoirs naturels. Il se trouve qu'à des moments, la ferme qui est à proximité, elle n'a plus d'eau. L'année dernière, c'était très tendu, toujours pareil, un week-end. Ces brebis étaient très mal, il faisait très chaud, et puis on n'arrivait pas à remettre en route. Problème d'électricité, c'était compliqué. Donc, j'ai envoyé des courriers là, au service de l'État pour ça. Pas de retour. Mais bon, en fin de compte, je vais le dire, parce que quelque part, c'est peut-être une solution. Mais ils ont la solution des toilettes sèches, ces braves gens-là. Plutôt que de moi donner de l'eau à ces aires de repos pour effectivement faire de la consommation humaine, je suis d'accord. Mais après, pour que ça s'en aille à gauche, à droite, dans les sanitaires, je trouve ça un peu dommage, de l'eau traitée. Moi, quand je vois un gamin qui reste appuyé sur le robinet poussoir et qu'il regarde l'eau couler en rigolant, ça m'énerve un peu, quoi, parce que vaut mieux la regarder couler à l'état naturel plutôt que depuis un robinet. Alors j'ai souvent cette vision-là qu'un jour, je l'ai eue il y a 2 ans, quand on a eu des grosses tensions là, sur les milieux, où là ça a été compliqué parce qu'on se faisait du souci quand même. De dire que c'est pas parce qu'on a un robinet à la maison sur un évier que le jour où on tournera le mitigeur, qu'on aura peut-être que du goutte à goutte. Donc c'est quand même une réalité. On se rend compte. Je suis pas un pro des piscines, moi. Donc les piscines, c'est le genre de truc que je trouve. C'est une ressource qui permet beaucoup d'évaporation d'eau, puisque milieu fermé, échauffement, évaporation. Mais on se rend compte que là aussi, il y a des efforts qui sont faits. Les gens arrivent à les bâcher maintenant, les piscines. Ça évite cette évaporation. Les piscines, elles sont plus vidées systématiquement. Vous savez, à l'époque, hein, quand on allait faire le plein d'eau à la fontaine, l'eau, on l'économisait. Hein. Maintenant, le fait d'ouvrir un robinet et que ça coule, c'est facile, quoi. Comment on gère ? Donc, on donne déjà la priorité aux habitants. L'agriculteur, je vous disais que, hormis donner de l'eau à ces bêtes pour qu'elles boivent, c'est des gros volumes, mais on ne peut pas empêcher un animal de boire. Après, ici, il n'y a pas d'irrigation. Donc, déjà, on ne peut pas interdire d'irriguer. Après, on a pris des arrêtés de restriction, nous, au CIVOM, même avant qu'on nous impose les arrêtés préfectoraux. On avait pris les arrêtés, interdiction d'arroser les jardins, interdiction de laver un véhicule, par exemple. Tout ce qui n'était pas les choses obligatoires de la vie pour avoir à utiliser de l'eau. Voilà. Et par ce fait, on s'est rendu compte qu'il y avait eu une grosse baisse de consommation ou de tirage. Et on a pu passer comme ça. Et je vous dis, la nature a fait bien les choses parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Et ça a suffi pour essayer de pour recharger. Après, nous, on a sur notre zone, on a une chance que notre ressource principale, elle vient du Lévézou. Et le Lévézou, c'est quand même un territoire qui est un peu plus humide que le Causse, et où il y a un peu plus de précipitations au cours de l'année que sur le Causse. Et il y a moins ce problème d'évaporation. Clairement, si on avait nos ressources, nos prélèvements, s'ils étaient côté Causse, on serait plus en inquiétude que d'être côté les vaisseaux. On a une source qui s'appelle la source Saint-Pierre, qui est sur la commune de Verrières, et qui est sensiblement en limite de commune de Saint-Léon. Et donc toutes les ramifications qui alimentent cette source, les traçages qu'on a pu faire viennent surtout du réseau du secteur Lévézou. Voilà. Et ça va même, certains traçages allaient même jusqu'à Sévérac-le-Château. Donc on se rend compte qu'on a cette chance. Alors que sur le Causse, la source, sur Poy, il y a une fontaine qui coule. À cette époque-ci, elle coule. Et c'était celle qui alimentait avant le hameau le village de Poy. Eh bien, on se rend compte que maintenant, du mois de juin au mois d'octobre, il n'y a même pas du goutte à goutte. Donc, ça aurait été très compliqué. Oui, moi je pense que ça peut créer des conflits d'usage. C'est clair. Alors, je vais vous dire, pour le moment, l'élu multicasquette n'y a pas du tout pensé. Parce que c'est vrai qu'ici, on n'est pas trop dans ce cas de conflit, on n'a pas trop ce souci. Mais il faudra communiquer et puis faire preuve du bon sens des gens. Et voilà quoi. La communication, c'est important.
Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode. On se retrouve dans un troisième épisode pour évoquer cette fois-ci tous les usages de l'eau qu'il s'agit de concilier localement. Entre le grand cycle de l'eau naturel et le petit cycle de l'eau façonné par lui-même pour ses besoins, se glisse toute une myriade d'acteurs, des agriculteurs, des industriels, des campings, des loueurs de canoës, des pêcheurs. Leurs activités sont littéralement branchées sur la même rivière, alors comment concilier ces usages pour préserver la ressource et anticiper sa raréfaction ? Rendez-vous dans ce troisième épisode. Cette série de podcasts a été réalisée dans le cadre d'une résidence de journalistes menée par moi-même, Lola Cross, au sein de Radio Larzac, grâce au financement de la DRAC Occitanie.
Vous pouvez retrouver les précédents épisodes et l'intégralité de la série en podcast sur le site de Radio Larzac.